CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau qui va nous faire un compte-rendu de la Fondation ex-Abbé Pierre.
Enfin plutôt du rapport de la Fondation ex-Abbé Pierre sur le mal-logement.
Sera suivi de Clément Chassin pour sa chronique à table et qui va nous parler cette fois-ci des pommes.
C'est ça, le légume du jour, c'est un fruit.
Et ensuite sera au tour de Jean Barthes qui va continuer dans les scandales et cette fois-ci dans le sport et plus particulièrement, on l'a tous entendu, Décathlon.
Oui, bonjour, on va parler de sport et de la traçabilité des produits.
Sera suivi d'Alain de Frémont pour sa chronique Art et Culture pour nous parler cette fois-ci de films érotiques.
Et oui, si vous voyez dans le studio le nombre de personnes qui ont gardé leurs vêtements, comme il fait froid, bah, je vais essayer de vous réchauffer.
Et enfin, nous terminerons l'émission avec à portée de parole, cette fois-ci comme invitée, Lucille Fradin de l'entreprise Quitte École.
Oui, Lucille qui est notre voisine au créneau et qui viendra effectivement nous parler de son entreprise, de ses réalisations et de ses projets.
Tout de suite, la chronique Dossier du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Alors, la Fondation pour le logement des défavorisés, hein, donc c'est le nouveau nom de la Fondation ex-Abbé Pierre, hein, et c'est d'ailleurs le rapport est encore paru cette année sous l'appellation Fondation Abbé Pierre, mais effectivement, c'est terminé. Donc, elle publie son 30e rapport annuel, un rapport de 350 pages, qui met en lumière une profonde et inquiétante dégradation de la situation du logement.
Alors, quels sont les chiffres donnés par la Fondation, justement ?
En préambule, le rapport dénonce l'effort budgétaire national historiquement bas pour l'année 2024. Le nombre de personnes mortes à la rue a atteint un record aussi, 735 décès. Le nombre de personnes sans domicile, en hébergement ou à la rue atteindrait 350 000 personnes, soit une augmentation de plus de 100% depuis 2012. Enfin, 2,7 millions de personnes sont en attente d'un logement social. C'est deux fois plus qu'il y a 20 ans et quatre fois plus qu'il y a 40 ans, alors que parallèlement, l'offre ne cesse de diminuer avec 84 000 logements sociaux financés en 2024 contre 124 000 en 2016. Il faut ajouter que l'année 2024 a connu un record également en matière d'expulsion locative. 19 000 expulsions, soit plus 17% en un an. La Fondation rappelle également que 30% des ménages ont eu froid dans leur logement, contre 14% en 2020, et que 600 000 logements sont considérés comme indignes.
Comment s'explique cette progression du mal-logement d'après la Fondation ?
Par une politique gouvernementale qui a largement favorisé les plus aisés et tout autant lésé les plus défavorisés. Selon les chiffres de l'INSEE, les mesures fiscales sociales prises en 2023 ont induit une baisse de niveau de vie annuel de 290 euros pour les 10% des ménages les plus pauvres. Les services de Bercy ont publié une étude fin janvier montrant que les 74 500 foyers les plus riches du pays se sont beaucoup plus enrichis ces dernières années que le reste de la population. Parmi eux, les 40 700 ménages dont le revenu moyen est de 1,03 million d'euros par an, alors que le revenu moyen déclaré en France est de 32 000 euros, cette catégorie est composée de hauts cadres de la banque, de l'informatique, de professions libérales, chirurgiens, avocats, sportifs de haut niveau. Ces foyers, qui ne représentent que 0,1% des ménages, représentent en revanche 3% des revenus. Ces foyers THR, très haut revenu, ont vu leur revenu augmenter entre 2003 et 2022 de 119%, contre 46% pour le reste de la population. L'étude montre que ces ménages THR sont assez concentrés en Île-de-France. La moitié d'entre eux y habitent, contre 18% des autres ménages, et que plus de la moitié d'entre eux a plus de 60 ans. Un tiers seulement de leurs revenus proviennent de leur salaire, 43% du produit de leur placement financier.
Y a-t-il d'autres explications que ces mesures fiscales et sociales ?
Oui, la diminution inquiétante de l'effort public pour le logement. En 2010, le logement, c'était 2,2% du PIB. En 2024, c'est 1,5%, son plus bas niveau depuis 30 ans. Et la Fondation demande d'urgence des mesures volontaristes dont il faut remarquer qu'aucune ne figure dans le budget qui vient d'être adopté par 49.3. La Fondation demande entre autres de rendre des capacités d'action aux organismes de HLM pour relancer la construction et améliorer l'existant, par la baisse de la TVA sur la production d'HLM par exemple, par le retour intégral à l'aide aux foyers les plus précaires, qu'on appelle RLS et qui a été ponctionné. Elle demande aussi une action résolue de production de logements à bas loyer et l'amplification de mesures de régulation du marché privé, ainsi que l'abrogation de la loi anti-squatteur de Guillaume Kasbarian, abondement du fonds vert, des mesures dissuasives sur les logements vacants et les résidences secondaires, et à plus long terme, un meilleur encadrement des prix du foncier.
Une large partie du rapport est consacrée au mal logement pour les personnes handicapées. Quel est le constat ?
Beaucoup de personnes en situation de handicap connaissent toutes les facettes du mal logement, en pire. Par exemple, les structures d'hébergement provisoire comme les hôtels ne sont pas souvent adaptées au handicap. L'accès au logement social est encore plus difficile dans la mesure où seuls 18% des logements sociaux sont considérés comme accessibles. Une situation aggravée par la loi Elan de 2018 qui a réduit de 100% à 20% l'obligation de logement accessible dans le neuf. 23% des personnes en situation de handicap ont une demande de logement social de 5 ans ou plus, contre 12% pour les autres demandeurs. La Fondation demande le rétablissement des 100% dans les logements neufs, l'augmentation de ma prime ADAPT, qui permet une prise en charge partielle des travaux de mise en accessibilité. Et en conclusion de son rapport, la Fondation parle d'une année d'attentisme et de renoncement. Les engagements ont été trahis, comme les 1,2 milliards promis pour la rénovation des HLM. Les budgets, fonds verts ou ma prime rénov' ont été rabotés. Les gouvernements successifs n'ont rien fait pour prendre à bras-le-corps la crise de la construction qui est tombée à son plus bas niveau depuis 1991. Les promesses d'aide aux maires bâtisseurs faites par François Bayrou lors de sa déclaration de politique générale ne figurent pas dans le budget. Les pouvoirs publics ont cherché des boucs émissaires plutôt que des solutions. Les coupables désignés sont les normes écologiques, les ménages les plus pauvres qui accumulent parfois des impayés, qui squattent des logements vides, faute de mieux, ou survivent dans les abris de fortune, parfois en situation irrégulière.
Merci beaucoup Monique pour cet approfondissement. Vous pouvez retrouver le rapport de la Fondation sur son site internet, les travaux de l'INSEE et ceux de la DGFiP. Merci. On passe maintenant à la chronique à table. À table avec Clément Chassin. Clément, tu nous as dit que tu nous parlerais de pommes.
Eh oui, pomme, 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 pomme. Parce que on arrive bientôt au bout de la saison des pommes.
C'est une question ?
Non, c'est une constatation. On arrive bientôt au bout de la saison des pommes. Et oui, alors qu'on en voit encore plein partout.
Oui.
Comment ça se fait ? Parce que ça se conserve bien, les pommes.
Ah.
Voilà, mais oui. Alors peut-être vous avez des souvenirs de grand-mère qui étalait les pommes dans le grenier.
Sur les clayettes.
Voilà.
Bien aérées.
Et voilà, ça se conserve des mois comme ça. Alors maintenant, les producteurs, ils ont des hangars aérés comme il faut et tout. Ça se conserve des mois, donc on va encore trouver des pommes pendant un bon moment. Mais la saison, la vraie saison des pommes fraîches,
ça
va bientôt se terminer. Du coup, parlons de pommes. Parlons des pommes, mais déjà, je vais en profiter pour parler aussi justement des producteurs de pommes. Puisqu'on a la chance en Île-de-France quand même, on est une région agricole où avant il y avait quand même pas mal de producteurs de pommes. Donc on avait une grosse production en région Île-de-France qui a été perdue peu à peu au profit des céréaliers, des gros céréaliers qui ont mis la main sur toutes les terres pour des productions chimiques et en plus qui exportent ces productions chimiques. Donc c'est pas génial. Moi j'achète mes fruits à des petits producteurs des Yvelines qui sont à côté de Maule. Donc c'est vraiment local. C'est des frères qui ont repris l'exploitation de leurs parents. Ils ont une production saisonnière, donc ils font des pommes l'hiver, ils font des fruits rouges l'été. Alors un des bons côtés de se fournir auprès d'agriculteurs locaux, c'est que eux, ben, ils embauchent, quand il y a besoin de récolter, ils embauchent des gens des Mureaux ou de Mantes, parce que c'est des gens qui peuvent facilement venir jusqu'à Maule. Et voilà, ça permet de recruter localement plutôt que de faire venir des sans-papiers ou des travailleurs étrangers qu'on sous-paye et qu'on loge dans des conditions indignes.
Tu les connais d'où en fait? C'est parce qu'ils viennent sur Chaville?
Alors je les connais parce qu'ils livrent les AMAP de Chaville.
Voilà, je voulais te faire dire.
Et donc voilà, donc effectivement, moi je les suis donc depuis quelques années, et donc je peux vous dire que donc il y a 2 ans, ils ont subi des gelées blanches, donc c'est des gelées au ras du sol, ils en ont eu pendant 2-3 jours d'affilée, donc ça flingue toute une production. Donc ça c'était il y a 2 ans. L'an dernier, ils ont eu des gelées noires.
Oui.
Alors les gelées noires, c'est pareil, mais un peu plus haut, mais pareil, ça leur a flingué toute la production. Donc ça fait 2 années qu'ils perdent 70-80% de leur production. Donc il s'agit vraiment de soutenir les producteurs locaux, parce que quand je disais que ça faisait de l'emploi local, tout ça, enfin vraiment, il faut vraiment les soutenir, parce que là, le changement climatique, on le voit et on voit vraiment ce qui se passe. Et comme je disais, ils ont repris l'exploitation de leurs parents, donc c'est une exploitation qui est exploitée depuis plusieurs décennies, et voilà, ça n'arrivait jamais ça avant. Donc il y a un vrai souci. Bref, revenons aux pommes. Non, parce que quand même, voilà, on va causer.
Est-ce qu'il va y avoir des recettes?
Mais oui, regarde ce que je t'ai ramené. Je t'ai ramené des pommes.
Parce qu'on voit, il y a 2 pots sur la table.
Et oui, c'est des petits pots.
Des pommes.
Voilà, et du coup, alors il y a plein de recettes de pommes. On peut en faire plein de choses. Et là, je voulais parler d'une petite recette.
Ça sent l'alcool,
simple.
Ça.
C'est les pommes pochées.
Alors, pochées à l'alcool?
Pas forcément.
Ah.
Alors, déjà, comment on fait les pommes pochées? Donc, pour faire des pommes pochées, tu prends ta pomme, tu l'épluches. Tu les vides. Pendant ce temps, tu peux faire cuire un petit sirop. Donc, alors moi, je fais à peu près 1 litre, c'est ce que contient ma casserole. Pour 1 litre, voilà, je mets 2-3 cuillères à soupe de sucre. Tu mets effectivement quelque chose qui donne un peu de goût. Donc, ça peut être un alcool, ça peut être.
Un calva.
Ça peut être pour Monique.
Tu peux aussi le faire avec du thé. T'es pas obligé de le faire avec de l'alcool.
Ça doit être intéressant.
Voilà. Après, ça peut être bien, effectivement, pour utiliser des. Bah, n'hésitez pas à le goûter. Hein. Vous pouvez l'ouvrir, goûter, allez-y.
On peut sentir.
Oui. Alors, celui-là, je l'ai fait au rhum. Je fais mon sirop. Voilà, le temps d'éplucher mes pommes. Je fais cuire mon sirop, donc je le porte à ébullition.
Ah oui.
Donc là, par exemple, je l'ai fait avec du rhum. Donc là, je mets quoi, 10 centilitres de rhum pour 1 litre d'eau.
Ah, c'est
vraiment.
Oui, c'est très peu. Ça c'est très peu, ça.
Non, voilà. Et en plus, donc le temps que j'épluche mes pommes, je le fais bouillir. Hein, donc ça, y a,
oui,
voilà, on va pas être bourré avec ça.
D'accord.
Voilà.
Bon.
Et,
est-ce que t'as une autre recette alors?
Et on peut aussi y mettre des épices, de la cannelle, de la cardamome, du gingembre. Faut pas hésiter à y mettre du goût.
Ouais.
Voilà, ou même du thé, comme je disais, du thé, des tisanes, ça peut donner du goût. Voilà, c'est une recette qui est économique parce qu'on peut aussi utiliser les fonds de bouteille. Si t'as un fond de bouteille de vin, tu sais, des fois le lendemain de soirée, t'as 2-3 bouteilles où il te reste juste des fonds, tu sais pas quoi en faire. Et ben voilà, tu peux faire cuire tes pommes comme ça. Donc tu prépares ton sirop, une fois que tu laisses bouillir 10 minutes. Pendant ce temps-là, t'épluches tes pommes, tu les évides. Au bout une fois qu'elles sont prêtes, tu les mets dans ton sirop,
d'accord.
Tu laisses bouillir, pareil, 10 minutes. Et au bout d'une 10 minutes, tu les sors, tu les égouttes. Et voilà, tu peux les servir comme ça. Alors, tu les sers comme ça, tu peux les servir avec le sirop.
Ah, donc se mange de suite, en fait.
Ça peut se manger chaud, ça peut se manger froid,
On avait l'impression que tu les conservais. En fait, non, c'est pour nous les amener, ça.
C'était pour les amener,
voilà,
je les ai mis dans des bocaux. Voilà. Après, tu peux effectivement t'amuser à les mettre dans un bocal, mettre le sirop dans le bocal.
Ouais.
Ça se conserve un petit peu, mais
2 semaines.
Bon, l'intérêt, c'est quand même de les manger.
Ok.
Voilà.
Merci beaucoup, merci pour la démonstration. On passe maintenant à la chronique de Jean Barthes. Jean Barthes, tu vas nous parler du scandale qu'on entend depuis quelques jours à la radio, à la télé, dans les journaux. C'est le scandale Décathlon.
Eh oui, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de sport. Tous les sportifs connaissent ce moment sacré. Dimanche matin, petit soleil, tout est calme. On enfile sa dernière paire de Kipsta jaune fluo pour aller se défouler dans les sentiers forestiers. Et là, au cœur de l'effort volontaire, une idée des plus désagréable parasite l'instant. Est-ce que les Ouïghours font du jogging? Alors, de quoi parle-t-on? Tandis que Decathlon vient d'annoncer en grande pompe un partenariat avec Antoine Griezmann, la deuxième marque préférée des Français vient de se faire épingler par deux enquêtes. Certains des sous-traitants chinois de Decathlon sont impliqués dans l'exploitation forcée des travailleurs ouïghours. Là où le bât blesse, c'est que Decathlon a fait de la traçabilité un argument marketing. Grâce à la technologie RFID, chaque produit est censé être suivi à la trace, de l'usine au magasin. Mais... et le mets est de taille, l'entreprise ne communique pas la liste des fournisseurs. Voilà un flou qui profite aux pratiques douteuses. Dans certaines usines, des travailleurs sont forcés de produire, sous surveillance, en silence, à cadence infernale, sans aucune possibilité de fuir. À ce jeu-là, Decathlon ne sont pas les seuls. À ce jour, des dizaines de marques ont été pointées du doigt. Que ce soit du luxe ou des produits bon marché, Hugo Boss, H&M ou Zara ont déjà été pris la main dans le sac. Dans le sport, on a un quintet gagnant avec Nike, Adidas, Puma, Skechers et maintenant Decathlon. Derrière ce constat glaçant, qu'est-ce qu'on fait? Pour les produits alimentaires et pour les cosmétiques, moi j'utilise Yuka. Yuka, Yuka. C'est une application qui permet de scanner instantanément un code barre et d'obtenir une note sur 100 du produit qu'on tient entre les mains. Là, on est loin du Nutri-Score magouillé où des céréales au sucre raffiné passent pour des betteraves. Avec Yuka, on a un additif à risque, un produit cancérigène ou n'importe quoi, on le sait tout de suite. Depuis que j'ai l'application, j'ai scanné plusieurs centaines de produits et la conclusion est toujours la même. Les marques nous pipotent. Et ce scandale pose une question essentielle. En tant que consommateur, avons-nous un rôle à jouer? Parce que, après tout, si nous continuons d'acheter sans nous interroger, les entreprises n'en ont aucune raison de changer leurs pratiques. Alors comment agir? S'informer avant d'acheter, regarder si la marque est transparente sur ses fournisseurs, assez rapidement sur Google ou Opera on tape le nom de la marque plus le mot scandale et des choses sortent. 2. Interpeller les entreprises, envoyer un message sur les réseaux sociaux, poser des questions en magasin, plus on demande de comptes, plus elles devront y répondre. Et enfin, privilégier les alternatives éthiques, même si c'est plus cher, mais quiconque s'intéresse à l'économie le sait, plus on dépense proche et plus il y a de chances que l'argent revienne dans notre poche.
Là, tu nous parles de Decathlon. Est-ce qu'on aurait pu savoir, pour suivre ce que tu viens de dire, est-ce qu'on aurait pu deviner que Decathlon pose problème avant achat en allant sur Internet?
Alors là, c'est compliqué parce qu'effectivement, Decathlon avait bien
camouflé tout ça. Grâce à l'investigation de... C'est quoi, Cache à l'investigation?
Et Disclose aussi. Ouais. Et les deux en même temps, simultanément. Et en réalité, donc, c'est un des fournisseurs qui est en cause et ils ne donnent pas leur liste des fournisseurs.
Et est-ce qu'il y a d'autres applis qui peuvent nous aider? Yuka, ça fait quoi? Ça fait une bonne dizaine d'années que ça doit exister.
C'est 2000. Alors, j'ai pas la date précise, mais ça doit être 2015. 2015-2016. Ouais, j'ai vu qu'ils ont levé des fonds 2021-2022. Mais oui, en tout cas, pour les applications, j'en ai noté 3. Alors, je les ai pas encore toutes essayées, mais elles sont très bien notées. Alors, il y a Clear Fashion, My Label et Moral Score. Clear Fashion, c'est une application qui donne un score aux vêtements. Elle est notée 4,7 étoiles. On a aussi My Label tout attaché, une appli qui permet d'une analyse approfondie en fonction des critères santé, environnement et société. Elle est notée 4,3 étoiles. Et Moral Score, une appli qui donne des notes aux marques qui récoltent 4,1 étoiles. Personnellement, j'ai installé Moral Score. C'est peut-être pas la mieux notée des trois, mais elle est encore jeune et l'interface est assez ludique pour qu'on s'amuse.
Est-ce que si on tape Yuka Scandal sur Internet, est-ce qu'on va se rendre compte que finalement, en fait, Yuka a des intérêts avec les entreprises qui a des... Parce que c'est vrai que moi, je me souviens, en fait, je parle assez personnel, je me souviens de la présentation de Yuka en 2015. Moi, j'étais là, j'étais à peu près dans le public. Et la question qu'on a posée, c'est comment vous garantissez que Yuka reste indépendant? Parce que vous imaginez, derrière le marché que pourrait avoir Yuka, lorsque finalement, elle pourrait décider de sponsoriser d'une manière peu transparente certaines marques pour les favoriser, etc. etc. Comment on fait pour garantir
la
fiabilité de ces nouvelles entreprises?
C'est malheureux, mais on peut difficilement le faire. Et c'est vrai que c'est une très bonne question. Maintenant, c'est vrai que les applications comme Yuka, Clear Fashion ou My Label sont des super outils gratuits et avec lesquels on peut se demander à qui profite le crime. En tout cas, pour en revenir à Yuka, l'entreprise publie ses résultats sur son site, propose même de télécharger son bilan comptable. L'application a levé des fonds auprès d'Investir et Plus, donc j'ai pour le coup fait la recherche. C'est un groupe d'investisseurs à impact labellisé labellisé B Corp, donc qui respecte les principes ESG et qui est derrière plusieurs projets en jeu. Alors c'est vrai, leur fiabilité repose sur la qualité et l'exhaustivité des données qu'elles collectent et elles sont pas forcément infaillibles, mais ça reste un excellent point de départ quand on veut intégrer la technologie au changement.
Merci, on peut donc évidemment, au-delà de faire du sophisme, on peut au moins croire en leur transparence, parce qu'il y en a une, en tout cas Décathlon, c'est vrai que j'imagine qu'il y en avait peu ou pas, que ces applications au moins ont le mérite d'avoir une certaine transparence.
Bah, ils ont en tout cas le bénéfice de la jeunesse, d'être tournés sur des petites équipes, de se reposer sur une meilleure fiabilité, là où, où souvent les grandes entreprises, les grands groupes sont obligés de faire avec des actionnaires, avec différentes pressions, et donc de peut-être être plus tentés de mettre le mouchoir là où est le profit.
Merci beaucoup Jean-Bart. On passe maintenant à la chronique érotique. J'allais faire du Jean-Luc Reichmann. Non. La chronique art et culture, et tu vas nous parler de films érotiques.
Bande annonce avec Alain de Frémont.
Et oui, j'étais en connivence avec Clément, puisqu'après la pomme, moi je ne vais pas du tout l'éplucher, mais je vais vous la faire croquer. Alors soyons clairs, l'ambition du cinéma érotique est d'éveiller le désir par la suggestion sexuelle. Cette approche de l'érotisme, bien sûr, a évolué au fil de la libération des mœurs. En effet, en regardant dans le rétroviseur, en 1894, un court-métrage dévoilant la cheville d'une danseuse est censuré. Et en 1896, le premier baiser cinématographique provoque un scandale. Revenons dans le passé plus proche de nous, en 1956. Deux bombes sexuelles surgissent sur nos écrans. En France, Brigitte Bardot dans le film de Vadim « Et Dieu créa la femme » et outre-Atlantique, Carol Baker dans « Baby Doll » d'Elia Kazan. Aucune scène de nu dans ces films, mais des sommets dans l'art de la suggestion. Les censeurs des commissions de contrôle se durcissent, si je puis dire, mais ce ne sont que les ultimes sursauts d'une rigueur déclinante. Les sujets sulfureux se multiplient à l'écran. Première scène d'amour avec du « presque nu » à l'écran dans le film de Louis Malle du 1958, « Les amants ». Une mère supérieure d'un couvent qui pousse, sans le savoir, une jeune fille dans le bras de son vieil oncle incestueux avec Viridiana de Louise Buñuel en 1961. Et Kubrick qui défraie la chronique avec Lolita en 1962, thème qui serait certainement très controversé de nos jours. La fin des années 60 et le début des années 70 vont réchauffer nos écrans qui présentent des sujets comme l'inceste avec Pasolini et son film Théorème, le viol avec Le dernier tango à Paris de Bertolucci, la prostitution dans un autre Buñuel, Belle de jour, et bien plus sage qu'il n'y paraît, voire soporifique, Emmanuel de Jules Jacquin. Les années passant, les scènes d'amour et la nudité totale des femmes s'imposent au cinéma. Il n'y a qu'à voir la filmographie de Virginie Efira, par exemple. Quel que soit le scénario, elle apparaît nue dans presque tous ses films, sans que l'érotisme en soit le moteur. La nudité masculine, elle, est encore bien frileuse et rare, surtout pour les scènes de sexe en érection. Mathieu Amalric s'est prêté à cette option dans un film dont j'ai oublié le titre, mais André Téchiné a franchi le pas dans « Quand on a 17 ans » et Alain Guiraudy est allé très loin dans « L'inconnu du lac », un thriller sorti en 2013, qui était interdit aux moins de 16 ans. Alors si vous voulez réchauffer, à vos DVD.
Merci beaucoup Alain. On passe à la dernière chronique de l'émission avec « À portée de parole » et nous accueillons Lucille Fradin.
À portée de parole, les Chavillois prennent le micro.
Bonjour Lucille, merci. Bonjour, de nous avoir rejoint à Radio VCE. Vous êtes la directrice de Kit École. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise et puis votre parcours professionnel?
Oui, alors Kit École existe depuis 23 ans, est présent dans les écoles de France. Et donc nous concevons et nous vendons des maquettes pédagogiques, des maquettes éducatives en carton recyclé et fait en France. Il s'agit de véritables outils des maquettes à construire en volume pour les enfants que les maîtresses vont choisir pour étayer leur cours, la partie théorique qui devient concrète. Et chacun sait que en fait, l'apprentissage se fait bien mieux quand ça passe par le faire, par les mains. Voilà. Donc nous sommes depuis 3 ans à Chaville, dans les créneaux, nous sommes voisines, en fait, voilà. où nous faisons toujours la conception, la gestion commerciale et la logistique, la production est en fait dans Lyon.
D'accord. Et avant d'être à Chaville, vous étiez où ?
On était basé à Issy-les-Moulineaux.
Voilà. Pas loin.
Ouais, non, ouais, pas loin.
D'accord. Donc, le public visé, c'est le public scolaire. Est-ce qu'il y a d'autres publics ?
Oui, alors principalement, effectivement, notre cœur de métier, nous, ce sont les écoles primaires, hein, ouais. maternelles et élémentaires. Donc, on fournit aux enseignants des kits, hein, avec des planches qui sont prédécoupées, pas de ciseaux, pas de cutter, donc ouais, les enfants ne se blessent pas,
pas
avec la colle aussi, d'où le colle dans notre
voilà.
nom. Ça, c'est notre cœur de métier, vraiment.
D'accord.
Mais depuis 2-3 ans, nous avons eu des sollicitations de parents disant « oui, on aimerait bien continuer à la maison parce que c'est une activité géniale ». Et jusqu'à maintenant, on disait non. On n'a pas. Donc, on s'est quand même posé la question, on s'est dit, allez, on se lance. Et on a créé une autre marque qui s'appelle Mazette Quelle Maquette.
D'accord.
Voilà. Qui propose des maquettes individuelles dans certains offices de tourisme, dans certains concept stores, boutiques de musées, pour permettre aux enfants de continuer cette activité manuelle et éducative à la maison.
Alors, par exemple de maquette, voilà, exemple, la Tour Eiffel.
Alors, à l'école, alors la Tour Eiffel, bien sûr, hein, ça c'est,
oui.
c'est un de nos modèles les plus vendus à l'école pour aborder toujours des thèmes qui sont pédagogiques, qui sont abordés, qui sont au programme, toujours. La Tour Eiffel, effectivement, la maquette de la classe est un de nos meilleurs modèles pour travailler sur le plan.
Ouais,
c'est ça, c'est en CE1, sur le repère dans l'espace, comment on se situe devant, derrière, à côté, etc. Ouais. Bah, je reviens du musée de l'armée, là, hier, et je suis allée voir le petit taxi de la Marne, que nous faisons aussi, pour travailler sur la Première Guerre mondiale, etc.
Donc,
des sujets...
Donc c'est riche tout ça. Et alors comment vous vous faites connaître ?
Alors on fait de plus en plus de salons. On essaye de faire des salons, d'être un petit peu visible. Nous avons fait aussi le marché de Noël de Chaville, bien sûr. Nous avons
Vous étiez au Made in France aussi.
Ouais, on était au Made in France. C'est là qu'on s'est rencontrés, ouais, tout à fait. On avait beaucoup de chance cette année. On était sur le stand de la région de France.
Ouais.
Et ma fille qui travaille avec moi s'occupe beaucoup des réseaux. Donc, on est assez présent autant sur la marque Kit École que sur la marque Mazette Quelle Maquette. Et le troisième axe que nous avons aussi, c'est des maquettes ad hoc. C'est-à-dire que parfois, on a un musée ou là, récemment, la cathédrale de Beauvais pour ses 800 ans qui nous sollicite pour faire une maquette à leur effigie.
D'accord.
Pour célébrer un événement. Voilà.
Oui, alors ça peut ouvrir des années de travail, hein, parce que
On l'espère. Hein. Ça fait 23 ans qu'on existe et j'espère que ça va continuer longtemps, longtemps.
Donc vous travaillez avec votre fille, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous ?
Alors, à Chaville, nous sommes toutes les deux, mais notre concepteur, François Béclin, qui lui a créé quand même Kit École il y a 23 ans, qui est un ancien instit, vient régulièrement, une semaine par mois, travailler sur la conception des modèles.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres projets complètement différents pour l'avenir ou est-ce que...
Alors, complètement différents, non, pas vraiment. S'ancrer davantage peut-être localement, ça peut être super. Et puis, se développer un peu dans les régions aussi. On est toujours en demande de revendeurs, notamment, je passe un petit appel pour la Bourgogne, la région PACA, etc.
Vous avez combien de modèles en tout
Pas loin d'une quarantaine.
Quarantaine de modèles Il y a la cathédrale Notre-Dame.
Tout à fait.
C'est vrai, elle y est
Ouais.
Ah, mais génial, justement.
Qui a été au Louvre l'an dernier, lors de l'exposition pour la rénovation de la Notre-Dame.
Alors, comment peut-on vous joindre ?
Alors, on peut nous joindre. Alors, déjà, notre porte est grande ouverte au créneau. Vous venez quand vous voulez. Et ensuite, nous avons deux sites, hein, kitecole.com et mazetcalmaquette.com. Voilà, nous sommes joignables
tout le temps.
À loisir, oui, tout à fait.
Merci, merci beaucoup.
Merci à vous.
Monique. Merci, Lucille. Fradin, je le rappelle, vous êtes là pour l'entreprise Kit École. On peut vous retrouver au 22 rue de la Fontaine Henri IV à Chaville, au 06 58 31 40 96 ou par mail lucillefradin@yahoo.com. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain, 8h. C'était Jonathan Denuit sur Radio VCE.